Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus 92.1 FM, la radio de la communauté de l'ULB. Bienvenue dans l'émission Histoire de savoir. Mais avant de commencer, une question, qui parle derrière ces micros? Eh bien moi, c'est Charelle et je suis avec Pauline. Bonjour Pauline.
Bonjour Charelle, bonjour à toutes et à tous, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes étudiants en master de journalisme à l'ULB et pendant cette émission, on vous embarque avec nous dans un voyage très très lointain. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui suscite autant de fascination que de peur, un phénomène si mystérieux et profondément perturbant qu'il est au cœur de nombreux films, séries et histoires de science-fiction. Souvent, ils sont imaginés comme des portails vers d'autres dimensions ou même des machines à faire voyager dans le temps. Ils représentent la destruction absolue, des monstres dotés d'une force inouïe capable d'engloutir tout ce qui croise leur chemin. Vous voyez de quoi on parle ?
Des trous noirs évidemment, sauf que cette fois, ce n'est pas du cinéma, les trous noirs existent vraiment, et ce sont même parmi les objets les plus mystérieux de notre univers. Ils défient tout ce qu'on croit comprendre de la physique. Alors aujourd'hui, on va essayer simplement de vous en apprendre un peu plus sur ces structures fascinantes.
Pas de panique, on ne va pas vous faire un cours d'astrophysique, on va essayer de comprendre ensemble avec vous. Et peut-être qu'à la fin de cette émission, ce concept sera un peu moins flou.
Avant de commencer nos recherches, Pauline et moi, on était curieux. On s'est posé une question, est-ce que les gens savent vraiment ce que c'est un trou noir? Alors, on est allé sur le campus de l'ULB et on a posé la question aux étudiants.
C'est un point d'énergie dans l'espace très très grand qui aspire tout ce qu'il y a autour de lui. Je sais qu'on n'en sait pas grand-chose, et je sais pas non plus beaucoup de choses. Et c'est sombre au milieu, parce qu'il aspire toute la lumière. Je suppose qu'il y a la mort, du coup. Parce que je pense pas qu'il y ait de... Enfin, il n'y a pas de vie dans un trou noir, donc je suppose que... Je pourrais pas trop expliquer ce qui arriverait, qu'il soit décapité ou je sais pas trop, mais oui, je suppose la mort, du coup.
Je sais qu'un trou noir c'est quelque chose d'assez énorme et que très souvent c'est en rapport avec une étoile, un soleil qui aurait été absorbé par sa propre masse. Mais vraiment c'est tout ce que je sais. Et d'une personne, de ce que je sais d'Interstellar, c'est une sorte de téléportation, comme une sorte de portail, le trou noir, c'est peut-être ça. Mais aucune idée sinon.
Moi je pense que les trous noirs ça n'existe pas, que donc fondamentalement tu peux pas tomber dedans. Mais dans le monde des imaginaires, j'imagine que quand tu tombes dedans, bah, c'est un gouffre sans fin, quoi. Mais moi, je n'y crois pas trop.
Vous venez d'entendre quelques réactions recueillies sur le campus du Solbosch. On le sent bien, les trous noirs intriguent, fascinent, et parfois même, on n'y croit pas du tout. Pour beaucoup, c'est un concept qui reste assez flou. Alors pour vraiment comprendre ce que sont les trous noirs, il faut d'abord revenir à une question toute simple. Comment est-ce qu'ils se forment ?
En théorie, n'importe quel objet pourrait devenir un trou noir, mais il y a une condition très précise. Il faut que sa masse soit comprimée dans un volume extrêmement petit, tellement petit qu'on atteint ce qu'on appelle le rayon de Schwarzschild. Et à partir de ce moment-là, la gravité devient si intense que l'objet ne peut plus résister. Il s'effondre complètement sur lui-même.
Bon, dit comme ça, ça paraît un peu difficile à imaginer. Alors prenons un exemple concret. Si vous, là, qui nous écoutez, vous vouliez devenir un trou noir, il faudrait compresser tout votre corps dans un espace minuscule, vraiment minuscule. Le rayon de Schwarzschild d'un corps humain serait de 10 à la puissance moins 25 mètres. Oui, c'est très petit, c'est 10 milliards de fois plus petit qu'un proton. Donc évidemment, c'est une valeur inconcevable. Mais pour mieux comprendre, on peut prendre un exemple beaucoup plus parlant, la Terre. Si on calcule son rayon de Schwarzschild, on obtient environ 9 mm. Ça veut dire que pour transformer la Terre en trou noir, il faudrait compresser toute sa masse dans un objet de la taille d'un petit pois.
Donc on est d'accord, ce n'est pas quelque chose qui risque d'arriver demain. En réalité, pour former un trou noir, il faut des objets beaucoup plus massifs, des objets bien plus grands que notre planète et même bien plus grands que notre Soleil. Et c'est justement là que les étoiles entrent en jeu.
Parce que oui, les trous noirs se forment très souvent à la fin de la vie des étoiles. Mais avant de comprendre leur mort, il faut déjà comprendre comment elles vivent. Au fond, Charelle, c'est quoi une étoile ?
Une étoile, c'est une immense boule de gaz, principalement composée d'hydrogène. Elle produit de la lumière et de l'énergie grâce à un phénomène qu'on appelle la fusion nucléaire. Concrètement, dans son cœur, l'hydrogène se transforme en hélium. Et cette réaction libère une quantité d'énergie absolument gigantesque. Cette énergie crée une pression vers l'extérieur. mais en même temps, la gravité tire toute la matière vers le centre. En gros, toute la stabilité de l'étoile repose sur cet équilibre. D'un côté, la gravité qui cherche à tout faire s'effondrer, de l'autre, l'énergie produite par la fusion qui pousse vers l'extérieur. Tant que ces deux forces s'équilibrent, l'étoile reste stable, elle brille.
Mais cet équilibre est fragile, parce que le carburant de l'étoile, lui, n'est pas infini. Avec le temps, elle consomme tout son hydrogène, et petit à petit, elle n'a plus de carburant, elle arrive à court d'énergie. Et à ce moment-là, tout bascule. Il n'y a plus assez d'énergie pour compenser la gravité. Donc la pression vers l'extérieur disparaît, et la gravité prend complètement le dessus. Elle devient dominante, et elle entraîne l'étoile dans un effondrement spectaculaire.
Et cet effondrement peut provoquer une explosion gigantesque, une supernova. C'est l'un des phénomènes les plus violents de l'univers. Mais dans certains cas, ce n'est pas la fin de l'histoire.
Si l'étoile est suffisamment massive, alors après l'explosion, son cœur continue de s'effondrer. Encore et encore, sans jamais s'arrêter, il continue de s'effondrer jusqu'à l'infini.
Et c'est ce processus qui donne naissance à un trou noir. Un trou noir qu'on appelle stellaire parce qu'il est directement issu de la mort d'une étoile.
Mais attention, il existe encore plus impressionnant. Des objets qui dépassent complètement l'échelle des étoiles. On les appelle les trous noirs supermassifs.
Et là, on parle vraiment de masse gigantesque, des millions voire des milliards de fois la masse du Soleil.
Et ce qui est fascinant, c'est qu'on ne sait pas encore exactement comment elles se forment. Contrairement aux trous noirs stellaires, leur origine reste aujourd'hui un vrai mystère scientifique. Mais il y a une chose dont on est sûr, il y en a un au centre de notre galaxie, la Voie lactée.
Il s'appelle Sagittarius A Astérix et il fait plus de 4 millions de fois la masse de notre Soleil. 4 millions! C'est une échelle qui dépasse complètement l'imagination.
Ouais, c'est vraiment immense. Et en même temps, ça nous rappelle que ces objets ne sont pas si loin que ça, à l'échelle de l'univers. Ils font carrément partie de notre galaxie. Alors maintenant qu'on comprend un peu mieux comment les trous noirs peuvent se former, il reste une question essentielle. Au fond, c'est quoi un trou noir? À quoi ça ressemble? Et surtout, qu'est-ce qu'il se passe à l'intérieur?
Pour essayer d'y répondre, on est allé rencontrer quelqu'un qui travaille directement sur ces questions. Stéphane Détourné, un chercheur en physique mathématique à l'Université libre de Bruxelles. Il s'intéresse notamment à la relativité générale et aux objets les plus extrêmes de l'univers.
Mais au-delà de la recherche, il s'investit aussi énormément dans la diffusion scientifique. Son objectif, c'est de rendre ces sujets accessibles, de créer des ponts entre la science et le grand public, et de montrer que même les idées les plus complexes peuvent être comprises si on prend le temps de les expliquer.
Il a d'ailleurs été récompensé pour cet engagement par un prix de diffusion scientifique de l'ULB, et il propose des formats originaux qui mélangent science, musique et expérience artistique.
Nous avons assisté à sa conférence « Einstein et la musique des trous noirs » et on lui a posé des questions sur le concept des trous noirs pour nous permettre de mieux comprendre ces objets fascinants. On sait que la théorie d'Einstein de la relativité générale, c'est une théorie qui a prédit les trous noirs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la relativité générale d'Einstein ?
Donc en fait, c'est une théorie qui a été développée et proposée par Einstein en 1915, après environ 10 ans de travail. Et en fait, c'est une théorie qui en fait, est née de la volonté d'Einstein de réconcilier une théorie qui venait de lui, qu'il avait développée, qu'il avait trouvée en 1905, la relativité restreinte, et la théorie, l'ancienne théorie de la gravitation de Newton. Et en fait, Einstein s'est vite rendu compte que la théorie de Newton, elle était en contradiction avec sa théorie de la relativité restreinte, dans le sens où, dans la théorie de Newton, l'interaction gravitationnelle se propage à une vitesse infinie. Si le Soleil venait à disparaître, instantanément, la Terre le saurait et sortirait de son orbite et continuerait à aller se perdre dans le froid interstellaire. Et donc ça a amené Einstein, de fil en aiguille, à se rendre compte que, d'une certaine manière, la gravitation se comportait de manière très très différente de toutes les autres interactions. Donc dans la théorie de Newton, la gravitation, c'est une force qui se propage sur un espace-temps qui est fixe. Ça l'a amené, en fait, au concept, à interpréter la gravitation de manière complètement différente. À dire, en fait, c'est pas une interaction qui se propage sur une scène qui est fixe, l'espace, mais ça se manifeste par une modification de l'espace et du temps unifié dans une structure qu'on appelle l'espace-temps elle-même. Donc l'image qu'on donne souvent, c'est ben, pourquoi est-ce qu'en fait la Terre tourne autour du Soleil ? Ben, on dit ben, simplement parce que si la Terre était toute seule et qu'on la lance, ben, elle continuera en ligne droite. Pourquoi ? C'est pas ça qui se passe, simplement parce que le Soleil exerce une force sur la Terre, et donc le Soleil a tendance à récupérer, à rattraper la Terre chaque fois qu'elle a envie de sortir de son orbite. Mais l'interprétation de la relativité générale, c'est complètement différent. En fait, c'est que la présence du Soleil va en fait courber l'espace-temps. Et là, on peut imaginer qu'on a une nappe. Et si on a une nappe qui est vide, la nappe, elle est plate. Si je lance une bille sur cette nappe, elle se déplace en ligne droite. Maintenant, si je mets quelque chose de massif au milieu de la nappe, ça va courber d'une certaine manière la nappe et donc l'espace-temps. Et si maintenant je lance une bille de manière judicieuse dans cet espace-temps en nappe, on va voir qu'en fait la trajectoire vue de notre point de vue, ça va être quelque chose qui va être un peu courbé, qui va avoir tendance à décrire une orbite circulaire ou elliptique autour du centre où l'espace-temps est courbé. Et si on lance bien la bille, cette orbite, ça va être exactement les trajectoires décrites par la gravitation newtonienne. Donc en fait, c'est ça le principe de la relativité générale, c'est que la gravitation ne se manifeste pas par une force qui est présente dans un espace-temps qui est fixe et rigide, mais la gravitation affecte l'espace-temps lui-même en lui imprimant une certaine courbure, et cette courbure, en retour, va dicter aux objets massifs comment se déplacer.
Comment est-ce qu'on peut décrire qu'est-ce qui se passe à l'espace-temps dans cette région du trou noir?
En fait, on peut avoir des trous noirs de toutes les masses. On peut avoir, par exemple, un trou noir qui a une masse... Un humain pourrait devenir un trou noir si son rayon était de l'ordre de 10 milliards, un 10 milliardième de la taille d'un proton. Mais si on a cette condition qui est vérifiée entre la masse et le rayon du corps, on se rend compte qu'en fait, on va avoir une certaine région qui va être générée par cette masse, donc par la courbure de l'espace-temps, de laquelle rien ne peut sortir. C'est-à-dire que si vous essayez de résoudre les équations des trajectoires, par exemple, de la lumière, dans cette région particulière dans laquelle vous vous trouvez, on se rend compte que la lumière ne pourra jamais s'échapper de cette région. Alors cette région, de laquelle rien ne peut s'échapper, pas même la lumière, cette région-là, on l'appelle le trou noir. La région qu'on appelle l'horizon, c'est la région qui sépare la région où vous êtes complètement libre de vos mouvements, de la région à l'intérieur du trou noir, où essentiellement vous ne pouvez plus communiquer avec l'extérieur. Et il y a aussi une chose qui est plus dramatique, c'est que votre destin est scellé. À partir du moment où vous entrez dans l'horizon, votre destin, il sera de finir ce qu'on appelle au centre du trou noir, où là les forces de marée deviendraient un peu plus dramatiques. On parle aussi d'une autre région qui est la singularité du trou noir. Donc la singularité du trou noir, ça c'est une région que vous atteindriez en un temps fini, une fois que vous avez franchi l'horizon. Et il y a un truc très très particulier qui se passe à l'intérieur de l'horizon, c'est un peu comme si le temps et l'espace s'inversaient. C'est que à l'extérieur du trou noir, il y a une direction qui va forcément toujours dans un sens, c'est la direction temporelle. Direction spatiale, vous pouvez aller en avant, en arrière, en haut, en bas, à gauche, à droite. Par contre, le temps, il va toujours en avant. Quand vous franchissez l'horizon d'un trou noir, c'est un peu comme si le temps et l'espace s'inversaient dans le sens où la distance au trou noir devient monotone. Donc la distance au trou noir, une fois que vous avez franchi l'horizon, ne peut que diminuer. Donc vous ne pouvez pas échapper à cette singularité. Une fois que vous avez franchi l'horizon du trou noir, vous n'avez d'autre choix que de vous rapprocher de cette singularité. Et au plus vous vous en rapprochez, là, au plus les forces auxquelles vous allez être soumis, au plus les contraintes que vous allez vivre deviendront importantes pour finalement vous retrouver avec des forces de marée infinies au voisinage de la singularité. Et là, votre corps sera éventuellement déchiré en mille morceaux. Donc, par exemple, imaginons que vous avez un trou noir et vous tombez en chute libre comme un bâton vers le trou noir. Donc vous vous approchez de cet objet, et ce qu'il y a, c'est que évidemment vous avez une certaine taille, donc vos pieds et votre tête se trouvent à une distance différente de l'objet qui vous attire. Okay? Donc vos pieds sont plus proches du trou noir que votre tête, parce que vous tombez les pieds en avant, disons. Donc en fait, la force qui va être exercée sur vos pieds, comme vos pieds sont plus proches du trou noir ou de l'objet, la force va être plus grande. Donc vous allez avoir une force plus grande exercée sur vos pieds que sur votre tête. Donc ça veut dire qu'en fait, ça va générer un étirement sur votre corps. Et donc ça, c'est l'aspect gettification. Imaginons que vous êtes loin du trou noir, et vous regardez quelqu'un qui tombe vers le trou noir, son temps va s'écouler de manière différente. Et la fréquence des signaux qu'il va vous envoyer, parce que comment est-ce qu'il fait pour communiquer avec vous, il y a une radio par exemple, elle va diminuer. Donc en fait, si vous avez quelqu'un qui vous parle et qui tombe vers un trou noir, la fréquence des signaux va diminuer, donc il va parler de plus en plus grave. Donc ça, c'est quelque chose qui va se passer. Donc les signaux vont devenir de plus en plus graves, la fréquence du signal va diminuer, mais diminuer au point que quand il s'approche de l'horizon, la fréquence en fait tend vers zéro. Donc si la fréquence tend vers zéro, il n'y a plus aucun signal qui vous arrive. Progressivement, l'intensité et la fréquence du signal vont tendre vers zéro. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez jamais voir cette personne franchir l'horizon. Donc il va bouger et parler de plus en plus lentement, le signal va être l'image va être de plus en plus, de moins en moins lumineuse, pour, à la limite, à l'horizon, voir quelqu'un qui est quasiment frisé et qui disparaît à votre champ de vision.
Tout ce qui se passe dans le film a des bases de la physique. C'est des trucs qui sont réels, des théories qui sont réelles. C'est pas complètement absurde, mais ce serait pas ce qui se passerait dans un trou noir dans la réalité.
Alors, il y a en fait une histoire qui est assez intéressante. C'est que quand... Donc, faut savoir que l'idée scientifique du film Interstellar, c'est un vrai scientifique qui est derrière, donc c'est un physicien qui s'appelle Kip Thorne et qui a en fait obtenu le prix Nobel en 2017 pour la découverte des ondes gravitationnelles, justement. Et quand en fait le film a commencé à se construire, il a accepté d'être conseiller scientifique du film à la condition que tous les principes physiques mentionnés dans le film soit réel, donc basé sur la physique acceptée, soit éventuellement spéculatif, mais spéculatif de manière à ce que des physiciens sérieux et professionnels considèrent ça comme crédible, en fait. Donc la plupart, en fait, la quasi-totalité ou la totalité des choses qui sont mentionnées dans Interstellar sont vraiment basées sur de la physique sérieuse.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus 92.1 FM. Aujourd'hui, dans l'histoire de savoir, on parle des trous noirs. Après l'intervention du professeur Stéphane Détourné, on va prendre un moment pour revenir sur une idée essentielle. Parce que les trous noirs, on en entend souvent parler, dans les films, dans les séries, dans les médias, mais leur réalité physique, elle, reste difficile à imaginer. Concrètement, un trou noir, c'est une région de l'espace-temps où la gravité devient extrêmement intense. Tellement intense que rien ne peut s'en échapper, même pas la lumière. Autrement dit, une fois qu'un objet ou même un rayon lumineux entre dans cette zone, il n'en peut plus sortir.
Pour rendre cette idée un peu plus concrète, on peut utiliser une image assez simple. Imaginez que vous êtes dans un bateau, sur une rivière qui mène vers une cascade. Au début, le courant est faible. Vous pouvez encore ramer, changer de direction, garder le contrôle. Mais plus vous vous approchez de la cascade, plus le courant devient fort. Jusqu'à un point précis, où peu importe vos efforts, vous ne pouvez plus jamais revenir en arrière. Dans un trou noir, cette limite s'appelle l'horizon des événements. C'est une frontière invisible mais fondamentale. Une fois qu'on la franchit, tout retour devient impossible.
Au-delà de cet horizon, tout ce qui entre est irrémédiablement attiré vers le centre. Et ce centre porte un nom, la singularité. C'est une région où la matière est comprimée dans des conditions extrêmes. Tellement extrêmes que les lois de la physique telles qu'on les connaît aujourd'hui ne suffisent plus à les décrire. Les scientifiques arrivent à modéliser ce qui se passe autour, mais ce qui se passe exactement au cœur du trou noir reste encore un mystère.
Mais concrètement à ce qu'on imagine souvent, tout objet qui s'approche de l'horizon d'un trou noir n'est pas forcément aspiré immédiatement. Il peut y avoir toute une activité autour. Des nuages de gaz, des étoiles et même d'autres trous noirs peuvent orbiter autour. Par exemple, le trou noir supermassif au centre de notre galaxie Sagittarius A Astérix est entouré d'étoiles qui tournent autour de lui. Et c'est justement en observant ces trajectoires que les scientifiques ont pu prouver son existence.
Parce que oui, observer un trou noir, ce n'est pas évident. C'est même un peu paradoxal. Comment est-ce qu'on peut observer quelque chose qui est complètement noir? Alors, on ne le voit pas directement, mais on peut observer ce qui se passe autour. Certains trous noirs sont visibles grâce à ce qu'on appelle leur disque d'accrétion. C'est un disque de gaz et de poussière qui tourne autour du trou noir à très grande vitesse. Cette matière chauffe énormément et elle émet une lumière très intense juste avant d'être engloutie.
Donc si vous avez déjà vu une image d'un trou noir, ce que vous avez vu ce n'est pas le trou noir en lui-même, mais ce disque lumineux autour. Souvent, on a l'impression de voir un anneau, un peu comme Saturne. Mais il y a une particularité étrange. On a aussi l'impression de voir une partie du disque au-dessus du trou noir, comme s'il était déformé, presque tordu. En réalité, ce que l'on voit au-dessus, c'est la partie du disque qui se trouve derrière. Mais la gravité est tellement forte qu'elle déforme l'espace-temps et courbe la lumière. Résultat, cette partie devient visible.
Je sais, tout ça peut apparaître assez abstrait. Alors on va essayer de vous faire ressentir ça autrement, avec du son. Je vous propose une petite expérience. Fermez les yeux un instant et imaginez un trou noir. Peu importe à quoi il ressemble dans votre tête. Et si vous avez du mal à visualiser, vous pouvez aussi en chercher une image sur Internet. Maintenant, imaginez un orchestre. Un orchestre qui joue une mélodie, dans un faisceau spatial, en train de tourner autour d'un trou noir. Et écoutez bien ce qu'il se passe quand cet orchestre passe derrière.
Thank you.
C'était assez impressionnant ça quand même. Merci à Stéphane Détourné qui nous a permis d'enregistrer ce son. C'est lui qui a calculé comment la déformation de l'espace-temps modifierait les ondes sonores de cet orchestre.
Ouais, et c'est ça qui est fascinant. On part d'un concept très théorique et on arrive à le réduire en expérience sonore. Si vous souhaitez vous baigner encore plus dans l'univers des trous noirs, on vous conseille le film Interstellar, un film qui suit les lois de la physique et qui donc nous rapproche un peu de la réalité. On vous passe tout de suite une de ces musiques de ce film, voici Docked de Hans Zimmer. Maintenant, on va vous parler d'une date. Le 14 septembre 2015, un jour très spécial pour les physiciens et pour les astronomes du monde entier. Ce jour-là marque le début d'une nouvelle ère dans l'histoire de l'astronomie, parce que pour la première fois, on observe directement un phénomène lié au trou noir. Une découverte majeure, un moment historique. Ok, je vous mets dans le contexte. On est aux États-Unis sur deux sites jumeaux, les laboratoires LIGO. LIGO, ça veut dire Observatoire d'ondes gravitationnelles par interférométrie laser. Bon, dit comme ça, ça peut faire un peu peur. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails techniques, mais en gros, ce sont des machines conçues pour détecter les ondes gravitationnelles. Il y en a deux, un en Louisiane et un autre dans l'État de Washington. Ils sont séparés de plus de 3000 km. Et pourtant, ils vont capter exactement la même chose.
Ce 14 septembre 2015, à 9h50 et 45 secondes très précisément, les deux détecteurs enregistrent un signal. Un signal incroyable, l'espace-temps. L'espace-temps se met à vibrer. Une vague traverse la Terre, c'est une onde gravitationnelle. Pour rappel, l'espace-temps, c'est un peu comme une toile élastique sur laquelle se déroulent tous les événements de l'univers. Et les ondes gravitationnelles, ce sont des ondulations, des vibrations de cette toile, provoquées par les phénomènes les plus violents du cosmos.
Et ce jour-là, pour la première fois, on en détecte directement. Ces ondes viennent d'un événement extrêmement lointain, à plus d'un milliard d'années-lumière de nous. Deux trous noirs sont entrés en collision. Deux objets gigantesques, de 29 et 36 masses solaires, qui tournaient l'un autour de l'autre de plus en plus vite, jusqu'à fusionner. Un choc d'une violence inimaginable, capable de faire vibrer l'espace-temps lui-même.
Pour vous aider à visualiser, imaginez un lac. Si vous jetez un caillou dans l'eau, ça crée des vagues, des ondulations à la surface. Dans notre cas, le lac, c'est l'espace-temps. Et le caillou, c'est la collision des deux trous noirs. Les ondes qui en résultent se propagent dans tout l'univers. Et en passant, elles étirent et compressent l'espace-temps. Concrètement, elles modifient les distances entre les objets. Tout se déforme, mais de manière extrêmement subtile.
Tellement subtiles que nous, sur Terre, on peut absolument pas les ressentir. Ces variations sont microscopiques, même plus petites que microscopiques. Mais grâce à des instruments extrêmement précis, on a réussi à les mesurer. Et mieux encore, on a réussi à les transformer en sons.
Oui, parce que ces ondes gravitationnelles, on peut les traduire, les convertir en fréquences audibles. Et ça donne quelque chose d'assez surprenant. On vous fait écouter. Ce que vous allez entendre, c'est le moment où ces deux trous noirs spiralent l'un autour de l'autre, jusqu'à finalement fusionner.
Bon, pour une collision aussi violente, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le son est assez inattendu.
Oui, complètement. On s'attendrait plutôt à un grondement, à quelque chose de grave, presque effrayant. Et en fait, pas du tout. Ce son, on l'appelle le chirp, les gazouilles en français, parce qu'il ressemble au chant d'un petit oiseau.
Bon, ce chirp, ce gazouillis, on peut pas vraiment appeler ça de la musique. Mais après l'avoir entendu, on s'est posé une question avec Charelle. Est-ce qu'il existe d'autres sons dans l'univers, d'autres formes de musique ?
Alors, on a cherché, mais on n'a pas cherché très longtemps. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de son dans l'espace. L'espace est vide et sans matière. Les ondes sonores ne peuvent pas se propager. Donc, si un jour vous vous retrouvez dans l'espace, je suis désolé, ce sera la silence totale.
Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas créer de la musique à partir de l'univers. Il existe une technique qu'on appelle la sonification. Le principe est simple, transformer des données en son. Par exemple, la lumière d'une étoile peut devenir une note aiguë et la densité d'un objet un son plus grave. C'est une autre manière de représenter l'univers, une manière de l'écouter.
Et finalement, la musique et l'astrophysique ne sont pas si éloignées. Elles ont un point commun, elles travaillent toutes les deux avec des ondes. Et peut-être aussi, c'est le mystère et la majesté du cosmos qui inspirent autant les scientifiques que les musiciens.
Pour aller plus loin, on est allé rencontrer quelqu'un qui fait justement le lien entre ces deux mondes. Arthur Choplin est chercheur en astrophysique à l'ULB. Il travaille sur la physique stellaire et cherche à comprendre ce qui se passe au cœur des étoiles.
Mais en parallèle de ses recherches, il a une autre passion, la musique. Dans ses compositions, il essaye de créer un dialogue entre astrophysique et création sonore. Il transforme par exemple des signaux lumineux en musique.
On lui a posé quelques questions pour comprendre comment on peut passer des étoiles aux notes musicales.
Et vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la sonification ? Je ne sais pas si c'est ça que vous expliquez un peu avec la musique qui se crée, la sonification de l'univers ou des sons de l'univers. Est-ce que c'est quelque chose avec un élément visuel ou comment ça marche ?
La sonification de base, c'est rendre audible une donnée, n'importe laquelle. Donc ça peut être une image, une donnée, n'importe quelle qu'elle soit, quoi. Donc par exemple, un exemple que je donne souvent, c'est le compteur de radioactivité Geiger. Vous savez, ce petit compteur, là, si on se promène dans une forêt à Tchernobyl, c'est silencieux, on entend les oiseaux. Et puis d'un coup, on allume notre compteur, on va entendre tic, 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 tic. Et bien ça, c'est une sonification de la radioactivité. Donc on rend audible quelque chose qui est imperceptible ou une donnée, quoi, qui est la radioactivité, qui est complètement abstraite, qui est difficile à percevoir. Mais ce compteur, c'est une sonification très simple de la radioactivité. Et il y a une infinité de manières de sonifier des images, des données, des signaux reçus de l'espace ou autres. Il y a plein de gens qui font de la sonification en biologie. dans plein de domaines différents. Et je trouve que c'est une manière super intéressante de rendre la science un peu moins austère, un peu plus accessible, quoi, et faire appel à quelque chose qui est plus lié à l'ordre de l'émotion. Et alors, il y a un débat, en tout cas personnel, qui est toujours, est-ce qu'on peut sonifier et rester très fidèle au signal ? Donc, on peut décider de, OK, je vais sonifier quelque chose et essayer de vraiment... lier le son aux caractéristiques physiques du signal, et dans ce cas-là, en général, on a quelque chose d'assez peu musical, assez pas forcément hyper joli, intéressant. Et alors l'autre extrême, c'est de prendre énormément de liberté et puis de voilà, donc et donc d'avoir quelque chose de plus joli, mais de peut-être moins lié fortement à la physique et au signal et tout ça. Et donc il y a toujours un peu, je trouve ça intéressant d'essayer de trouver un peu un compromis entre lié au signal, rester un peu fidèle aux données, à l'image, voilà, mais aussi prendre des libertés, faire un truc un peu sympa, quoi.
Est-ce que vous avez un exemple pour qu'on comprenne un peu mieux d'une sonification dans l'univers, par exemple à partir d'une photo ou
Il y en a une que j'aime bien, qui n'est pas de moi, que j'aime beaucoup, ça s'appelle la harpe de Saturne. Donc les anneaux de Saturne, on peut les voir de différentes manières, mais ça c'est une photo qu'une sonde spatiale qui s'appelle Cassini, qui s'est approchée de Saturne et qui a pris des photos des anneaux. Et elle a pris une photo notamment très proche des anneaux, enfin au-dessus, on est encore à des dizaines de milliers de kilomètres, mais on voit les anneaux comme des lignes droites, comme ça on dirait un peu un code barre. Il y a des gens qui ont sonifié cette image, Et qui ont assimilé les anneaux de Saturne, donc à des cordes d'une harpe, en fait. On peut écouter les anneaux de Saturne, quoi. Le compromis, je trouve, entre... musicalité et réalité de l'image, parce que si on reste à la réalité de l'image, on va avoir des sons qui sont pas du tout des intervalles musicaux qui sont pas du tout beaux pour nos oreilles d'occidentaux, en tout cas. Et donc là, ils ont mis, donc il y a vraiment une correspondance entre zone claire, qui est en fait une zone des anneaux où il y a plus de glace, par exemple, et une zone foncée, c'est où il y a plus de roches, moins de glace. Donc il y a vraiment un lien entre caractéristiques physiques des anneaux et sons, mais il y a aussi un peu d'ajustement, en gros, pour forcer le son à rester dans des domaines de gamme qu'on aime bien, quoi.
Et vous avez du coup publié 3 compositions musicales dans cette conférence. Il y en a une qui s'appelle Supernova. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que Supernova ?
Point de départ de cette partie, de cette musique, c'était des sons de pulsars. Donc des sons de pulsars, c'est des sortes de phares cosmiques, hein, qui tournent dans l'univers comme ça et qui émettent deux faisceaux à 180 degrés, vraiment comme des phares. Donc on les voit pas en lumière visible avec nos yeux, mais avec des instruments on peut les voir. Et donc on peut juste sonifier ces pulsars. Dès qu'il y a le faisceau qui passe devant la Terre, on entend un clic. Donc il y a aussi des sonifications toutes simples, je dirais, de pulsars. Et aussi il y a aussi des pulsars qui tournent beaucoup plus vite. Ça, je trouve ça marrant. Il y en a par exemple un que je montre qui fait 440 tours par seconde. Ça va tellement vite que ça fait et on entend un son continu. En fait, on n'entend plus un bip, mais un son continu. Et en fait, 440 tours par seconde, c'est 440 Hz. Donc il y a un pulsar qui m'a donné en fait le tempo de la musique. Donc pendant toute la musique, il y a ce pulsar qui bat la mesure, en fait. Et il y a aussi ces sons de fusion d'objets compacts, donc des fusions d'étoiles à neutrons ou des fusions de trous noirs. Donc c'est dans l'univers, voilà, maintenant on sait qu'il y a des fois des systèmes qu'on appelle binaires, donc comme par exemple la Terre et la Lune, mais deux trous noirs qui se tournent autour, ou deux étoiles à neutrons, et qui sont partis dans une sorte de danse un peu macabre, comme ça, endiablée, et au bout de centaines de millions d'années, ils vont se rapprocher et finir par fusionner. Donc, en fait, ça produit donc une bouffée d'ondes gravitationnelles, donc c'est des ondes c'est un phénomène donc très énergétique, et ces ondes, ça déforme vraiment l'espace-temps lui-même. C'est difficile à imaginer, mais on peut imaginer ça comme des ondes à la surface de l'eau qui se propagent dans l'espace à la vitesse de la lumière. Et aujourd'hui, on peut détecter sur Terre le passage de ces ondes, de cette houle cosmique comme ça qui traverse la Terre, et il y a des instruments ultra précis qui ont détecté ces événements, et on sait que voilà, ça existe, on arrive à savoir dans le ciel où ça s'est produit, d'où ça vient. Et donc ce sont des ondes. Et donc, les ondes, ça a une certaine fréquence, et on peut traduire ces fréquences en sons audibles. Et donc, ça aussi, c'était quelque chose qui revient dans la musique Supernova beaucoup, qui est le son produit par une fusion de deux trous noirs ou de deux étoiles à neutrons, qui est ça. Voilà, c'est vraiment bizarre, mais c'est vraiment ça, ça s'appelle le chirp. Donc le gazouillement, le gazouillis, c'est vraiment le son. Alors là, pour le coup, c'est vraiment assez physique. C'est une transposition dans le domaine audible du moment où ces deux objets ultra compacts, trou noir ou étoile à neutrons, fusionnent. C'est la coalescence, ça s'appelle. Et en fait, le gazouillement, c'est assez marrant parce qu'il y a un oiseau qui produit à peu près le même son, qui s'appelle le flûtiste balancé en Australie. Et au début, je me disais, mais c'est pas un son d'oiseau, ça. Mais en fait, il y a donc ici encore le son de l'étoile à neutrons. Et puis le son de l'oiseau. Donc en fait, je trouvais ça marrant, cette idée en astronomie, là, c'est peut-être un des phénomènes les plus extrêmes que l'on connaisse, qui peut être traduit en son par un petit son d'oiseau, quoi. J'ai aussi laissé pas mal libre cours à mon imagination, donc les points de départ, c'était ce son de pulsar pour là, et les chirps, les gazouillements, là, comme ça, que j'ai mis un petit peu dans la musique, et le reste, c'est des ajouts. Ça, c'était un peu la matière première, et puis le reste, c'est des éléments que j'ai ajoutés. Et en fait, l'idée que j'avais, enfin, qui me semblait, c'était qu'en construisant cette conférence, je me disais, bon, les supernovas et ces événements-là de fusion, de monstres cosmiques et tout ça, ça a quelque chose d'un peu terrifiant, d'un peu de dramatique, quoi. Hein. La supernova, c'est la mort d'une étoile. La fusion d'étoiles à neutrons, quand on y pense, c'est assez terrifiant, quoi. C'est quelque chose, des trous noirs, c'est quelque chose qui fait assez peur. Donc, dans cette première partie, je vais dire, de la musique, c'était un peu... je pensais un peu à ça, quoi. J'avais envie de faire un truc un petit peu peut-être anxiogène, un peu qui reflète un petit peu ça. Mais en fait, je voulais aussi cet autre aspect qui est que par exemple une supernova, quand une étoile meurt, en fait, elle va relâcher dans l'univers toute la matière qu'elle a transformé pendant sa vie. Et cette matière, c'est par exemple de l'oxygène, des atomes d'oxygène, du carbone, du néon, du fluor, plein d'atomes comme ça qu'elle a comme un peu dans une usine cosmique ou un alchimiste dans son cœur, elle a transformé, elle les relâche. Et en fait, dans un certain temps, avec cette nouvelle matière, des nouvelles étoiles, de nouveaux mondes vont peut-être se former. Donc il y a une sorte de cycle, ça s'appelle le cycle de la matière, ça. Et on peut appeler ça comme ça en tout cas. Et donc il y a quelque chose de vraiment aussi de l'ordre de très positif, je trouve, dans la mort d'une étoile. C'est vraiment l'ordre de l'espoir, de la possibilité que de nouveaux mondes vont naître de ces cendres, de ces débris d'anciennes étoiles. Donc c'est lié à la mort, ces supernovas, ces explosions, mais aussi à une vie potentielle, à une vie future, quoi.
Sur cette note, je vous propose d'écouter cette chanson de Arthur Chopin qui s'appelle Supernova.
Et sur ça, on arrive déjà à la fin de cette émission. Aujourd'hui, on a essayé de comprendre ce qui, au départ, semblait presque impossible à imaginer. Les trous noirs, ces objets invisibles, extrêmes et pourtant bien réels. On a vu comment ils se forment, comment ils déforment l'espace-temps et même comment on peut les écouter.
Oui, et ce qui est fascinant, c'est que malgré toutes les avancées scientifiques, les trous noirs restent encore en grande partie mystérieux. On comprend de mieux en mieux leur fonctionnement, mais ils continuent de poser des questions fondamentales sur la gravité, sur le temps et même sur les limites de la physique.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que ce voyage au cœur de l'univers vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en apprendre encore plus.
C'était Histoire de savoir sur Radio Campus 92.1 FM. À très bientôt pour une nouvelle émission.
On finira sur une dernière chanson d'Interstellar composée par Hans Zimmer. Je vous souhaite une bonne fin de journée.
Prenez soin de vous et surtout, gardez les yeux tournés vers les étoiles.